Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui aimes chiner dans les vides-greniers à la recherche d'un prototype steampunk de iPod à disque dur 78 tours. Qui n'a pas rêvé de trouver un artefact tout droit tombé d'une réalité alternative, une chimère non finie qui promettait un autre avenir que celui qui est notre quotidien? Qui n'a pas eu envie de tomber sur une planche complète d'un album de Tintin totalement inédit? De Rush d'un James Bond abandonné avec Sean Connery au top de sa forme? Ou de l'intégralité des enregistrements de Nicolas Sarkozy par Patrick Buisson? Ça, c'est un beau travail d'historien. Derrière les engins électroniques qui nous entourent, il y a souvent une entreprise, au sens noble du terme. Une aventure collective. Et l'existence même de nos gizmos est la conséquence d'une histoire, celle de son développement. La vie d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Pour financer de la R&D, recherche et développement, surtout dans le matériel, il faut beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et des fois, elle doit abandonner à grand regret un projet qui tenait particulièrement à cœur de tout le monde, parce que le marché ne sera pas là, parce que la concurrence a fait mille fois mieux, parce que l'économie ne permet pas d'emprunter auprès des banquiers, ou parce qu'elle fait brutalement faillite. Et donc cette vision se retrouve remisée dans des cartons, sédimentant sous les factures et livres de compte, dans les strates géologiques de notre ère électronique. Dans l'informatique familiale, il y a eu des milliers de prototypes abandonnés. L'Amiga au chipset AAA, un Apple IIc combiné à un téléphone, et j'en passe. Certains n'étaient qu'à l'état de schéma technique, d'autres sont allés jusqu'au Photoshop pour une plaquette promotionnelle, parfois même des cartons des machines fonctionnelles qui ne sont jamais sortis de l'entrepôt. D'autres sont des légendes urbaines, comme l'Atari Falcon PowerPC ou le laptop Cray. Il a été impossible de trouver le moindre élément tangible sur ces monstres fantasmés. Enfant du futur immédiat, il arrive qu'un de ces prototypes qu'on croyait définitivement perdus ou fantasmés ressorte de leur carton, puis patiemment restauré par des passionnés et documenté. Leur découverte expose parfois des informations très intéressantes sur les entreprises et les personnes qui les ont construites. Par exemple, l'exhumation du premier prototype de la PlayStation de Sony, en deux mots, une machine qui était compatible avec la Super Nintendo et avec le même port cartouche d'ailleurs que la Super Nintendo, plus un lecteur CD-ROM Sony. Une étrange chimère qui en dit beaucoup sur les relations très aléatoires de Nintendo avec ses partenaires. La petite histoire veut que Nintendo préparait de longue date un appareil hybride avec Sony et a finalement décidé, deux jours avant l'annonce du produit au CES 1991 de Chicago, de plaquer son concitoyen japonais, annonçant publiquement un partenariat avec le Hollandais Philips pour finalement ne même pas utiliser le lecteur CD dans la console de la génération suivante, la Nintendo 64. Un revirement qui a mené à deux points importants. 1. La création des pires jeux de la franchise Zelda pour la CDI, le lecteur CD interactif de Philips. Oui, oui, ils sont là. Ils étaient, oui, particulièrement mauvais, comme quoi il y a pire. 2. Le lancement de Sony dans le monde du jeu vidéo, alors qu'il ne voulait pas y aller seul, avec la PlayStation, première du nom, écrite cette fois-ci en un seul mot. Cette histoire était connue, mais incomplètement. De nouveaux détails sur cette trahison en 91 sont ressortis avec un carton contenant ce prototype de SNES à lecteur CD-ROM, une histoire fascinante, passionnante, racontée par Kotaku. On mettra le lien sur le site cpu.pm et Enfant du futur immédiat prend vraiment le temps de le lire. C'est assez surprenant et ça en dit beaucoup au final. Enfant du futur immédiat a fouillé les poubelles de l'histoire informatique. On peut exhumer des objets incongrus qui ont des histoires passionnantes. De là, on peut faire de la science-fiction spéculative. Imagine si Jules Verne avait vu un laser, quel roman aurait-il écrit ? Si H.P. Lovecraft avait eu un compte Facebook, quel roman d'horreur aurait-il imaginé ? Bon, c'est vrai que Lovecraft était un putain de raciste absolument du niveau de Facebook. Donc c'est... Et si Conan Doyle avait eu un smartphone, aurait-il imaginé le même Sherlock que Stephen Moffat ? Et si ? Et si ? Et si ?